Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, 1 seul talent. À chacun, selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent. » Et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlevé, même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu.
Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Terrible, hein ? Jésus ne dit pas ça pour nous faire peur. Et chaque fois que nous croyons que l'Évangile nous fait peur, c'est que nous avons mal interprété l'Évangile. L'Évangile n'est pas là pour nous faire peur, l'Évangile est une bonne nouvelle. Alors d'une part, il faut faire le tri, c'est un langage apocalyptique, c'est-à-dire c'est une manière de parler, et une manière de parler au fond pour nous secouer, pour nous faire réagir, et pour nous dire qu'il y a une certaine urgence. Dimanche dernier déjà, l'évangile se concluait par « veiller et prier parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et puis, dimanche prochain, nous parlerons, avec la fête du Christ roi, nous parlerons du jugement dernier, le jugement dernier où les uns et les autres seront jugés selon la charité. Aujourd'hui, l'antienne d'ouverture d'ailleurs de la messe insiste. « Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai et de partout je ramènerai vos captifs. » Et donc si nous prenons les pensées du Seigneur pour des pensées qui ne sont pas des pensées de paix, c'est qu'encore une fois nous interprétons à l'envers. Alors de cette parabole des talents, il y a une interprétation classique, facile, trop facile, et qui est malheureusement la plus fréquente. Vous avez reçu des talents, l'un a le talent d'être musicien, l'autre a un talent pour être matheux, l'autre a un talent pour je ne sais pas quoi. Alors il faut faire de la musique, il faut faire des maths, il faut faire ci et ça, il faut aller selon les dons, les talents que nous avons. Et puis le Seigneur nous demandera des comptes sur nos talents. Mais c'est une interprétation qui serait une morale de rétribution. Tu dois, tu ne dois pas. Et c'est certainement pas fidèle à l'Évangile. C'est une vision qui est beaucoup trop étroite, beaucoup trop restreinte. Qu'est-ce que c'est les talents que le Maître confie ? Si on regarde d'un peu près, le talent, c'est une somme faramineuse. Si on essayait de faire en monnaie actuelle, mais ça ne correspond pas à grand-chose, parce qu'il faudrait voir selon ce qu'on gagne dans une journée, dans une année. Mais on pourrait dire quand même, grosso modo, qu'un talent correspondrait à 1 million d'euros. Mais vous voyez, c'est très vague. Mais enfin, une énorme somme. Donc 5 talents, vous voyez, c'est quand même 5 millions, ça commence à faire. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'un talent pour être musicien ou pour être matheux. Il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui touche à l'infini, qui touche à ce qu'on ne peut pas compter. Qu'est-ce que c'est le talent que Dieu nous confie ? Parce que c'est derrière le maître de la parabole, évidemment, c'est Dieu. Ce que Dieu nous confie, c'est sa propre vie, c'est sa grâce. La grâce qu'il nous confie, la grâce qu'il nous donne, mais qu'il nous confie pour la faire fructifier, c'est le don de son amour, c'est le don de sa miséricorde. Au fond, c'est le don même de lui-même, le don de son Fils, quand on parle du Père, le don de sa vie, de son Eucharistie, quand on parle du Fils, le don de l'amour qui crie dans nos cœurs « Père, Papa », si nous parlons de l'Esprit-Saint. Le don de Dieu est incommensurable, on ne peut pas le mesurer. Et il y a une différence radicale, c'est là-dessus qu'il faut insister quand on lit la parabole, il y a une différence radicale entre les deux premiers et le troisième. Les deux premiers, il y a une confiance entre le maître et celui qui reçoit les talents. Il y a un climat de confiance réciproque. Et cette confiance, elle épanouit. On voit un sourire, on voit une lumière, on voit quelque chose qui épanouit une vie, qui épanouit un visage. Le troisième, au contraire, il y a quelque chose qui est renfrogné, quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui s'éteint. Les premiers ont confiance, le troisième a peur. Et je me pose la question, comment se fait-il que ce troisième ait eu peur ? Il a eu peur, dit la parabole, parce qu'il a mal interprété la réalité de son maître. Il a pris son maître pour un homme dur. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu récoltes là où tu n'as pas semé, que tu réclames ce qui n'est pas dû, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, voilà ce qui t'appartient. Mauvais serviteur, paresseux. » Qu'est-ce que c'est faire fructifier le talent ? Eh bien, c'est mettre le talent au service de la vie, mettre le talent au service de l'Église, mettre le talent au service de l'humanité. C'est investir ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu ? Le baptême, la vie de Dieu, l'amour, la miséricorde, encore une fois. Et tout cela, je le mets en œuvre pour vivre dans le monde comme un ferment, comme dirait l'Évangile encore. c'est comme le ferment dans la pâte. Je fais lever la pâte du monde par l'investissement de mon amour. Et au fond, le premier comme le deuxième, ils reçoivent ce talent gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et donc, ils investissent tout, puisqu'ils gagnent deux fois plus. Ils mettent en jeu tout ce qu'ils ont reçu. Le troisième garde jalousement et plante le talent reçu parce qu'il a peur. Je me demande au fond si le troisième, c'est pas celui qui regarde Dieu comme un Dieu sévère, un Dieu de la morale. Je vais prendre des coups parce que je ne suis pas conforme à l'idée que je voudrais avoir de moi-même. Je ne suis pas conforme à l'idée que Dieu voudrait se faire de moi. Je ne suis pas conforme à ce que Dieu attend de moi. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Rien d'autre que d'accueillir son amour. Laissez-vous aimer. Et c'est en se laissant aimer que l'amour, petit à petit, prend racine dans nos cœurs et que cet amour fructifie, que cet amour se donne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et nettement, il y a ceux qui se laissent aimer, qui se laissent envahir par l'amour et qui, du coup, sont totalement ouverts, totalement gratuitement donnés. Ils reçoivent gratuitement, alors ils n'ont pas de mal à donner gratuitement. Et puis il y a celui qui lit l'Évangile comme un manuel du parfait chrétien et « Oh là 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 là, j'ai pas fait ça, je suis nul, j'ai fait des péchés, mon père, si vous saviez, c'est épouvantable. » Mais ça, on s'en fiche, puisque Dieu donne sa vie précisément parce que tu es pécheur, parce que nous sommes tous pécheurs. Est-ce que tu crois qu'il te donne son amour ? Est-ce que tu crois qu'il te donne sa vie ? Mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais personne n'est digne. Tout le monde est pécheur. Nous avons tous, une seule est immaculée, c'est Marie. Mais tous, nous sommes des pécheurs. C'est précisément pour cela que Dieu, Père, nous donne son Fils et que le Fils nous donne sa vie. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Est-ce que nous croyons que nous sommes sauvés ? C'est là que peut-être il y a un manque de foi. Et nous en sommes tous coupables. Parce qu'au fond, il y a un peu de gratuité en nous quand même, j'espère. Mais il y a aussi beaucoup de peur, souvent. Nous ne croyons pas à la sainteté que Dieu nous donne. Non, la sainteté, mon Père, ben non, c'est pas pour moi, vous comprenez ? Il y a des saints, mais c'est pas moi. Mais justement, c'est ça le problème. Pourquoi c'est pas toi ? Parce que tu ne te laisses pas faire. Parce que tu ne te laisses pas aimer. Parce que tu ne crois pas que l'amour de Dieu est capable de te sanctifier. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu crois que c'est tes petites bricoles qui vont impressionner le bon Dieu ? Alors là, tu prends Dieu pour qui ? Dieu est amour. L'amour se donne, et se donne sans cesse, et se donne sans limite. Le troisième perd l'amour parce qu'il a perdu la confiance. Il perd l'amour parce qu'il s'est fermé. Celui qui a, on lui donnera encore. Celui qui aime, et même celui plutôt qui se laisse aimer, on lui donnera et on donnera parce que sa capacité augmente. Plus je donne gratuitement et plus ma capacité d'amour augmente. Mais celui qui au contraire se ferme, perd cette possibilité même d'aimer, perd cette possibilité de recevoir l'amour de Dieu. Alors, dans la deuxième lecture, saint Paul aux Thessaloniciens, il y a une certaine urgence qui est redite encore une fois. Ne vous fabriquez pas une paix artificielle, ne vous fabriquez pas une tranquillité artificielle. Quand on dira « quelle paix, quelle tranquillité », paf, c'est à ce moment-là que le Seigneur va venir. Et il vient comme un voleur, mais non pas pour vous surprendre et pour vous piéger. Dieu n'est pas cynique, mais Dieu voudrait nous prendre dans cette gratuité. Et c'est pour ça que saint Paul continue. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu à nous laisser surprendre, parce que nous sommes des fils de lumière. Conduisons-nous donc comme des fils de lumière. La lumière ne surprend pas ceux qui sont des fils de lumière. Oui, soyons vigilants, soyons sobres, et comme disait l'Évangile dimanche dernier, veillons et prions, parce qu'il vient celui qui vient sauver tout homme, celui qui vient emporter toute chose pour être récapitulé dans le Christ, dans le sein du Père. Alors je retrouve cette première lecture, ce magnifique chapitre, c'est le dernier chapitre du livre des Proverbes. La femme parfaite, qui la trouvera ? La femme parfaite, il ne s'agit pas de donner une femme bien soumise, une femme qui fait bien ce que son mari lui demande. C'est une femme qui s'investit totalement dans les tâches de sa féminité, de sa maternité. C'est une femme qui investit tout. Cette femme, ce n'est pas seulement les femmes du monde, c'est moi, par rapport à Dieu, je suis dans le rôle féminin, puisque c'est Dieu qui est l'époux. Cette femme, bien sûr, c'est Marie, elle qui est la figure par excellence de la femme parfaite. Cette femme, c'est l'Église, l'Église sainte, immaculée, comme Dieu veut se la présenter à lui-même. Et donc, cette femme parfaite, c'est moi. Je voudrais bien le devenir. Et comment le devenir ? Eh bien, en étant investi totalement à ma tâche, en étant investi totalement à ce qui est mon devoir d'État, finalement. Mais rien d'extraordinaire, rien de plus que ce qui est de ma responsabilité, rien qui ne soit pas à ma portée. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, c'est ma travail volontiers. Son charme est trompeur, la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Eh bien voilà peut-être la grande affaire. Est-ce que nous avons peur de Dieu ou est-ce que nous sommes des craignants Dieu ? Est-ce que nous sommes habités par le don de crainte qui « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Mais cette crainte qui, en même temps qu'elle me fait prosterner devant Dieu, me rapproche de lui. Je suis attiré par la grâce de Dieu. Ça, c'est le don de crainte. La peur, elle m'éloigne de Dieu. La peur, elle me ferme. La Vierge Marie, elle est tout entière habitée par ce don de crainte. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Demandons cette grâce par la prière de la Vierge Marie pour être des pauvres de cœur, pour être habités par le don de crainte, que nous puissions nous laisser envahir par l'amour de Dieu. Alors nous pourrons regarder le monde et regarder particulièrement les pauvres avec le même regard que celui de Dieu. Amen.